Septième séquence pour comprendre et débattre sur le thème de la mondialisation, une séquence proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de textile chinois, un thème qui a été cet été d'actualité.
Oui, j'ai pris cet exemple parce que cet été, on a reparlé des textiles chinois et ça permet bien de comprendre un petit peu la mondialisation. En 2005, on parle des textiles chinois. Comment ça se fait qu'à 2005, on dit qu'on est envahi par les textiles chinois? En 1995, c'est-à-dire il y a 10 ans, l'Organisation mondiale du commerce décide d'ouvrir le marché des textiles dans le monde. On sait que ça va poser problème, et alors ce que dit l'OMC, c'est on va l'ouvrir dans 10 ans. Préparez-vous-y.
Donc ce qu'on appelle ouvrir un marché, c'est-à-dire supprimer les taxes, ce qu'on appelle le protectionnisme, donc les taxes douanières sur le textile.
Supprimer les taxes sur le douanière et interdire toute mesure protectionniste qui empêcherait de dire il y a certains quotas, vous n'avez pas le droit d'importer plus de tant de quotas. Hein? Donc cette décision est prise à l'OMC en disant on a 10 ans pour la mettre en place. Pendant les 10 ans, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, les entreprises de capitaux vont aller s'installer dans les pays où la main-d'œuvre est la moins chère, et les entreprises vont progressivement, les grosses entreprises, vont avoir le temps de quitter les territoires où le marché du travail est cher pour aller s'installer dans les pays où le marché du travail est pas cher. Donc, on va avoir ces délocalisations des entreprises textiles. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on est bien placé pour savoir progressivement, d'avoir vu partir toutes les entreprises. Les grosses entreprises ont fait ça. Les petites entreprises, elles, sont appelées à disparaître. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme d'organisation sociale qui va avoir tendance à faire en sorte que les grosses entreprises deviennent en situation de monopole en se débarrassant des petites. Je crois que la première chose à voir, donc, c'est que les délocalisations ne sont pas une fatalité, mais sont les conséquences directes d'une organisation décidée à l'échelle du monde. Pour ce qui est des pays industrialisés, je veux peu insister, parce que les conséquences de ces délocalisations, en France, on est bien placé pour le savoir. C'est les conséquences de chômage. C'est les conséquences d'augmentation de la pauvreté, de la précarité et de la diminution des revenus d'une partie de la population en France et en Europe. Au niveau des pays pauvres qui vont, comme on dit, bénéficier, on va avoir aussi un certain nombre de conséquences sociales. Les grosses entreprises, quand elles s'installent, vont proposer du travail dans les entreprises et on va avoir une exode sur les villes, et on va avoir progressivement toute la société traditionnelle plus rurale qui vivait d'une manière plus autarcique, mais qui fonctionnait, qui progressivement va être désorganisée. En sachant que cette libéralisation touche aussi les entreprises agricoles. Et qu'on va avoir des très grosses multinationales européennes ou américaines qui vont amener sur les marchés du tiers-monde, des produits agricoles fabriqués à coût très bas. C'est-à-dire qu'on va avoir une désorganisation aussi des pays du tiers-monde. Pas seulement la désorganisation, elle n'est pas seulement du côté des pays fort industrialisés, mais elle est aussi au niveau des pays pauvres, cette désorganisation, et elle renforce les villes gigantesque et la pauvreté autour de ces grandes villes.
Alors, une question qui vient à l'esprit, hein, c'est à qui profite cette organisation?
Alors, les tenants du libéralisme mondial et ceux qui les soutiennent disent, alors là j'ai lu un interview de Pascal Lamy, qui était le commissaire européen chargé du commerce en Europe, et puis maintenant qui est le nouveau directeur général de l'OMC, qui dit « La somme des bénéfices pour ceux qui profitent des ouvertures des échanges est nettement supérieure à la somme des coûts. » C'est-à-dire que la vision des libéraux ou des sociaux, des libéraux sociaux comme Pascal Lamy, puisque Pascal Lamy est membre du Parti socialiste, c'est bizarre que ça puisse paraître, disent si on fait la somme de ce qu'on gagne par rapport à ce que ça coûte, le bénéfice est nettement supérieur. Alors ça, c'est une affirmation, d'abord un petit peu gratuite, qui mérite d'être analysée, et puis deuxièmement, à qui bénéficie et qui paye la note. Parce que c'est exact que pour les actionnaires, il y a bénéfice à gagner. Des entreprises distribuent jusqu'à 12 à 15% de revenus au niveau du bénéfice des grosses entreprises. Et quelqu'un qui utilise le marché financier fait par la spéculation, c'est-à-dire sans qu'il y ait création de valeur, va récupérer une quantité importante d'argent. Donc effectivement, cette organisation-là bénéficie aux transnationales, bénéficie aux gros actionnaires. Elle ne bénéficie pas aux petites entreprises. On a vu dans l'exemple du textile, c'est les transnationales qui ont la possibilité d'aller s'installer en Chine. La petite industrie textile qui fonctionnait un peu localement, elle n'a pas les moyens de faire ça. Et elle est appelée à disparaître. En bénéficient, nous dit Pascal Lamy, les consommateurs. C'est incontestable que le coût des textiles en France a diminué d'une manière substantielle avec la mondialisation. Alors on pourrait dire, le consommateur y gagne. On peut dire qu'il y gagne si tout le reste ne bougeait pas. Si les textiles diminuent, mais que vous avez perdu votre boulot et que vos revenus diminuent, eh bien vous n'y gagnez pas. Ce que vous avez gagné d'un côté, vous le perdez de l'autre. Le fait que maintenant, votre système de protection sociale, votre système de retraite ne fonctionne plus, c'est quelque chose qu'il va vous falloir payer. Ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. De dire le consommateur, il gagne, ce serait oublier que le consommateur, il est parfois malade, il est aussi travailleur, et que c'est l'ensemble de l'homme qu'il va falloir regarder. Qui paye la note ? Eh bien, c'est ceux qui perdent leurs revenus, qui perdent leur système de protection sociale, qui perdent une certaine qualité de vie. Les conditions des employés, de ceux qui travaillent, les conditions de travail dans les entreprises deviennent de plus en plus stressantes, de plus en plus source de tension. Quand on dit les bénéfices sont nettement supérieurs aux coûts, c'est une approche très comptable de la richesse, qui ne tient pas compte de l'ensemble des coûts, le coût écologique. L'organisation du monde comme lieu de production unique développe en termes de transport un coût écologique énorme. C'est le transport qui est le plus polluant dans le monde qu'on a. Le coût de la misère sociale n'est pas comptabilisé dans cette vision comptable du monde. Hein, ça me fait penser à une chanson de Béranger. Combien ça coûte la misère, combien ça coûte l'indignité, combien ça coûte tous ces trucs-là. Et ça, c'est pas comptabilisé. Et ce qui fait une société, c'est les hommes qui y vivent. C'est pas une vision comptable ne permet pas de rendre compte de ça. Ça pose le problème des indicateurs de richesse. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une société? Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays? Est-ce que c'est la richesse d'un pays peut se mesurer au seul revenu des actionnaires. Ce qui fait la richesse d'un pays, c'est comment vivent les gens dans ce pays.
Donc quels sont pour vous des indicateurs, je dirais, valables de richesse ?
Au début où j'ai commencé mes émissions, j'ai dit quels étaient mes critères pour évaluer. J'en avais mis trois, l'aspect social, l'aspect écologique et l'aspect démocratie. Concernant l'aspect social, ce changement d'orientation du monde qui conduit à la disparition de la protection sociale, au droit à la santé, au droit à la retraite, à l'exclusion, à la précarisation, qui va entraîner une augmentation des écarts de revenus entre ceux qui sont plus riches, qui deviennent de plus en plus riches, et ceux qui deviennent de plus en plus pauvres, au regard de cette valeur-là, cette valeur sociale, on peut dire qu'on n'a rien gagné. On est plutôt en train de perdre. Au niveau écologique, aller faire produire de l'autre côté du monde ce qu'on peut produire à proximité de chez soi, ça a un coût écologique énorme qu'il faudra payer à un moment ou à un autre. On peut dire que l'idéologie de gestion, parce qu'en gros c'est ça, c'est une idéologie de gestion comptable qui tient lieu de référence au niveau de l'économie, c'est un non-sens écologique et c'est un non-sens économique. Alors au niveau écologique, effectivement, on est aussi dans une impasse. Et puis la troisième question, et qui n'est pas la moindre, par rapport à la démocratie. On est en train de changer d'orientation de l'organisation du monde. À quel moment, dans quelle instance, les gens ont été consultés? À quel moment ça s'est décidé? Ce choix d'orientation de société, de changement de société, qui l'a décidé? Dans quelle instance? Et là, on peut dire qu'il y a un déficit démocratique énorme qu'on aura l'occasion de travailler quand on va regarder sur les instances de l'Organisation mondiale du commerce.
Paul Masson, merci. On peut peut-être justement rebondir sur le programme de la prochaine séquence pour comprendre et débattre.
Alors, on a terminé un petit peu les préalables pour réussir à aborder l'Organisation mondiale du commerce. Et la prochaine fois, on essaiera de regarder l'aspect historique.
On se retrouve donc mardi prochain. En attendant, vous, auditeurs de PFM, vous pouvez poser vos questions donc par téléphone 03 21 50 99 99. N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur ou par email pfm@nordnet.fr.